roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Audio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure, avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Donc ce soir, qui ou quoi avec 5 minutes de retard, comme il y a 2 semaines finalement, mais sauf qu'il n'y avait personne avant moi. Ce soir, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous parler de 3 livres, mais de 2 livres qui traitent un petit peu de la même chose, à mon sens. Et puis on parlera de ce qui se passe, on parlera un tout petit peu de ce qui va se passer demain à Saint-Étienne autour de Philippe Cadic. Donc ce soir dans Qui ou quoi, on va parler de Free Party de Guillaume Kosmiki, de La Communauté de Tancrel et de Yann Benoît, et puis c'est parti. Alors, le premier livre dont je vais vous parler ce soir, ça s'appelle Free Party, une histoire des histoires de Guillaume Kosmiki, et c'est paru chez Le Mot et le Reste. Pour le dire vite, ça parle vaguement de techno et d'une période entre 90 et 2010, mais chaque chose en son temps, parce que je vais faire ça en 3 temps. D'abord, je vais vous parler de l'éditeur, ensuite de l'auteur, et après, je vous parle du livre. L'éditeur, donc, c'est Le Mot et le Reste. Il y a quelques émissions de ça, je vous avais parlé du livre Please Kill Me chez Alia Édition. D'ailleurs, j'en profite pour placer que si vous voulez réécouter l'émission, elle est disponible en podcast sur le site de Radio Audio ou sur archive.org. Toujours est-il que j'avais longuement parlé d'Alia Édition pendant cette émission, une maison d'édition parisienne qui a dédié une partie de son catalogue à des ouvrages sur la musique, du jazz à la pop, en passant par le rap et les musiques électroniques. Je me répète donc. J'avais profité de la réédition de titres phares d'Alia pour en parler parce que ses livres avaient disparu des étagères des libraires. Mais avant cette réapparition, il y a un éditeur qui avait commencé à occuper le terrain des livres de la musique. Et cet éditeur, c'est Le Mot et le Reste. Le Mot et le Reste, donc, maison d'édition marseillaise créée au milieu des années 90 par un breton qui s'appelle Yves Jolivet. Une maison d'édition qui s'est mise à occuper le terrain des livres sur la musique dans la foulée d'Alia, du Camion Blanc et autres rivages, en publiant des livres d'auteurs connus ou inconnus, contrairement à Alia, et même des livres de chanteurs connus, genre Dominica. Une des particularités des livres, c'est que la maquette est assez soignée et il y a une unité graphique entre tous les livres. Le papier est bien épais, c'est du bon livre bien robuste qui fait plaisir. Et la pléthore de livres proposés, j'en ai compté plus de 140 sur leur site, leur permet de proposer aussi bien des essais sur ce que c'est que d'avoir bon goût en musique que des livres sur Sunra ou Moondog, voire même des livres sur le field recording. Bref, normalement, il y a de quoi assouvir la curiosité de l'amateur de livres sur la musique. Alors contrairement à Alia, qui a réduit la part de son catalogue dédié à la musique pour ne publier que des chefs-d'œuvre, Le Mot et le Reste ont vraiment multiplié les titres, et pour le coup, dans ces 140 livres, il y en a qui sont un peu transparents. On ne connaît pas les auteurs, le sujet a déjà été traité ailleurs et mieux, etc. Il y a quand même plein de livres qui font bien envie, comme Retromania de Simon Reynolds, un fameux essai sur le fait que la musique d'aujourd'hui, la musique pop en l'occurrence, n'avance plus trop mais se gave de nostalgie à coup de reformation et de réédition. Ils ont aussi édité le livre de Pamela De Barnes, qui était une fan célèbre, la biographie de Kim Gordon, la bassiste de Sonic Youth, et puis plein, mais vraiment plein, de listes de disques qui peuvent intéresser les geeks comme moi, même si c'est justement grâce au livre du Mot et le Reste que j'ai découvert les limites de cet exercice. Mais bon, le garage, le rap, la musique africaine, le jazz, etc., tout y passe. Et j'ai prévu d'ailleurs quand même de vous reparler de livres parus au Mot et le Reste dans l'émission d'ici les vacances. fini de parler du mot et le reste, maintenant parlons un peu de l'auteur. L'auteur, donc, c'est Guillaume Cosmiki. Guillaume Cosmiki, moi, je le connais comme conférencier et écrivain, mais il est aussi et surtout musicologue de formation, et je crois qu'il s'est spécialisé pendant son cursus sur les raves et autres free parties. Bref, on n'a pas affaire à la moitié d'un charlot, et il connaît son sujet, à savoir les musiques électroniques sous toutes ses formes. D'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à essayer de voir une de ses conférences ou à vous taper l'incruste dans une des formations qu'il peut faire sur les musiques électroniques parce que c'est vraiment quelqu'un de passionnant à voir en vrai. Dans son premier livre, d'ailleurs, paru aux éditions Le Mot et le Reste, comme tous les autres d'ailleurs, je crois, tous ceux qu'il a écrits, il y explique la naissance de la musique électronique comme l'aboutissement d'une esthétique née des premières techniques d'enregistrement. Donc, il commence à la cabine d'enregistrement et il va jusqu'à la techno, en passant par les musiques savantes, les premiers instruments électroniques, les musiques expérimentales, pour arriver à la suite, à l'acid core, quoi. Bref, c'est assez passionnant, et moi qui n'avais pas du tout cette vision des choses, j'adhère aujourd'hui pleinement à son interprétation des faits, et je vous encourage à vous y intéresser, parce qu'ils sont pas beaucoup à en parler aussi bien, et à ouvrir les portes de la musique électronique de cette façon. Il y a bien sûr d'autres façons de se jeter dans la musique électronique, évidemment, mais en passant par les livres ou les conférences, il n'y en a pas beaucoup. Il m'avait tellement convaincu par ses points de vue que j'ai décidé de lire son livre Free Party, et on y arrive enfin aujourd'hui. Je l'ai lu et je vous en parle maintenant. Dans Free Party, une histoire des histoires de Guillaume Cosmiki, il ne parle que des free parties et pas d'autre chose. Alors, moi, à titre personnel, j'ai vraiment abordé la lecture de ce livre en bon novice des musiques électroniques. Là, je vais parler un peu de moi, j'ai fait quelques raves dans les années 90, j'ai côtoyé de plus ou moins près des gens qui ont donné naissance à une vraie scène techno vers Grenoble, et ces mêmes personnes m'ont emmené dans des raves et autres soirées, dont d'ailleurs une soirée à Marseille en 96, je crois, organisée par les psychiatriques. Ce que je ne savais pas, mais que maintenant je sais grâce à ce livre, c'est qu'en fait, c'était une free party. Et que c'était un mouvement, les free parties. Un mouvement dans le mouvement. Alors, je vous avoue que pour moi, c'était juste une rave dans les bois, mais apparemment, ça faisait partie d'un tout, mais pas celui auquel je pensais. Pour mémoire, dans les années 90, les acteurs de la scène techno n'avaient qu'une chose à cœur, c'était de dépasser le cadre de la teuf underground pour faire reconnaître la techno comme une culture à part entière. Techno qui était alors juste considéré comme de la musique répétitive de drogués. Laurent Garnier, d'ailleurs, le fameux DJ, en parle assez bien dans son livre Electrochoc. Bref, pour moi, à l'époque, tout le monde œuvrait dans le même sens, mais en fait, j'ai découvert dans ce livre de Guillaume Cosmiki qu'il y avait des voix différentes, voire même des chapelles bien distinctes. Comme j'ai pris d'autres voies musicales, personnellement, j'ai arrêté pendant assez longtemps d'aller dans des soirées techno, quelles qu'elles soient, mais j'ai bien vu de loin que les free parties continuaient d'exister et que les gros événements type I Love Techno s'étaient quand même bien installés dans le paysage. Donc pour moi, la techno s'était au minimum pérennisée et c'est vraiment avec ses yeux que j'ai lu ce livre. Et en fait, c'est là que le bât blesse. Comme je ne connais pas assez l'histoire de la musique électronique en France, eh bien, j'ai pas tout compris. En fait, le livre est construit comme Please Kill Me, dont j'avais parlé justement, quand j'avais préparé et présenté les éditions Alia. C'est-à-dire que c'est une succession d'extraits d'entretiens qui sont censés former un tout et raconter une histoire. Sauf que là, si on n'est pas familier de l'histoire globale des free parties, eh ben on comprend rien. J'en ai lu pas mal des livres dans ce style, et c'est là qu'on voit que c'est pas évident à écrire. Parce que dans celui-là, dans Free Party, j'ai passé mon temps à me demander si les free parties sont vraiment un mouvement. Alors je me suis renseigné, j'ai un peu demandé autour de moi à des personnes qui étaient un peu concernées, et qui m'ont dit que oui, mais franchement, même après avoir lu les 700 pages du bouquin, j'arrive toujours pas à voir pourquoi c'est un mouvement. Si c'est un mouvement, je ne comprends pas dans quoi il est né, je ne comprends pas son idéologie, ses codes, et encore moins son histoire. Et pourtant, comme le titre l'indique, des histoires dans ce livre, il y en a gavé. « Par exemple, le livre commence en Angleterre avec l'histoire des spirales, ce fameux crew anglais par lequel tout a commencé. Ce sont les premiers qui ont commencé à se trimballer en bus avec du matos pour pouvoir se poser n'importe où et faire une teuf en communion avec la musique du futur et la nature. Mais donc, après cette première partie, en fait, on laisse les spirales en Angleterre qui ont le désir de quitter l'île, mais c'est tout. Après, on ne cerne aucune personne dans le crew, aucune motivation. Et tout au plus, on retient quelques faits importants, genre ils ont fait une grosse teuf à Stonehenge. Et puis voilà. Plus tard dans le livre, on apprend qu'ils sont devenus la référence du mouvement, qu'ils se sont séparés, mais c'est au détour d'un chapitre, quand on parle avec une autre personne, et puis on ne sait pas pourquoi c'est devenu une référence, pourquoi ils se sont séparés, on ne sait pas ce qu'ils font entre le voyage en France et la séparation. Bref, les mots ne sont pas mis clairement sur les faits, c'est vague, et c'est comme ça en fait pour tous les protagonistes interviewés dans le livre. En fait, mon problème, c'est que vu que je n'arrivais pas à comprendre et à trouver ce que je cherchais dans le livre, j'ai pas pu m'empêcher de comparer avec d'autres livres qui ont été écrits de la même façon et qui sont plus réussis à mon sens. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi celui-là ne l'était pas. En fait, je crois que ça tient vraiment au fait que les personnes interviewées n'arrivent pas à exister. La somme de leur histoire, de leur destin croisé devrait dessiner en filigrane l'histoire du mouvement, en s'appuyant sur des personnages ou en couleurs, sur leurs motivations, sur des moments forts. Mais en fait, chaque bout d'interview et chaque chapitre semblent complètement déconnectés les uns des autres. Alors, bien sûr, il y a des histoires rigolotes, des trucs un peu hallucinants, mais là encore, c'est pas forcément très bien retranscrit. Mais en fait, j'ai rien senti, rien ressenti, rien compris. Aucune envie d'y être, aucune sensation forte, mais alors surtout, le pire, c'est que je n'en retiens absolument rien. Là où un livre comme Der Klang der Familie, qui est paru chez Alia, m'avait transporté dans l'Allemagne post-chute du mur de Berlin et m'avait fait naître à la naissance de la techno en Allemagne, jusqu'à me faire écouter de la techno de l'époque pendant tout le temps de lecture du livre, là où Please Kill Me m'a donné l'impression d'avoir vécu la naissance du punk américain et d'être pote avec Debbie Harry, ou voire même Dilapide ta jeunesse, un autre livre toujours sur la même façon d'écrire qui m'a tout appris sur le punk et le post-punk allemand, et ben là, le livre il est même carrément vendu avec un CD que je n'ai même pas eu envie d'écouter et que je n'ai pas écouté. Je ressors du livre avec bien plus de questions qu'autre chose. Au final, on passe à côté de tous les trucs qu'un livre comme celui-là aurait pu nous apprendre sur l'histoire et la place de la techno en France. C'est, au final, un livre vraiment pour initier. En fait, je pensais lire un livre sur la musique techno, mais Free Party, c'est plus un livre sur des gens qui ont décidé de partir vivre sur la route avec une envie de vivre autrement, parfois en communauté et souvent autour de la musique. D'ailleurs, un des faits bien notables dans le livre, c'est que plusieurs personnes disent qu'elles n'aimaient pas spécialement la musique techno. Donc, c'est plus un livre, en fait, sur le passage à l'âge adulte avec en toile de fond la musique techno. Mais il est où ce fameux mouvement des free parties ? Donc, de ce que j'en ai compris, et donc là, je vous évite de lire les 700 pages, de ce que j'en ai compris, et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on m'a dit quand j'ai posé la question, les free parties, en fait, c'est juste une façon, en mode do-it-yourself, d'organiser une rave. Et c'est peut-être pour ça que c'est un mouvement, le fameux do-it-yourself, qu'on retrouve un peu partout. Alors bien évidemment, les interviews sont quand même attachantes, je suis bien content pour les différents protagonistes, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on m'a raconté leur passage à l'âge adulte de manière super succincte et superficielle. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour moi. À ce titre, j'ai même une comparaison peu flatteuse avec une série de télé-réalité autour du groupe punk NoFX qui s'appelle Backstage Passport. À la fin de cette série de télé-réalité, les mecs de NoFX, qui sont quand même un petit peu connus et qui ont bien voyagé en mode punk, ils ont une date en Afrique du Sud et ils découvrent Quatre Noirs en Afrique du Sud et c'est pas évident. Et on les voit face caméra dire des trucs genre « Eh, mais les gens, ils vivent pas comme aux USA ici !» En toute bonne foi et en toute innocence. Mais ça fait un peu peur quant au recul que ces mecs ont. Et bien sûr, en fait, comme la réaction des mecs dans Free Party, parce qu'à la fin du mouvement des Free Party, un peu entre 2000 et 2010, il y en a qui ont essayé d'amener les Free Party en Afrique. Et c'est ce qui est un peu décrit dans le livre. Et en fait, la fin du livre, en Afrique ou sur le continent sud-américain, m'a fait un peu penser à la même chose. Alors, on peut louer leur innocence et leur bonne foi. Ça fait plaisir qu'ils découvrent des choses comme ça. Mais ça fait quand même un peu bizarre et ça fait poser justement des questions sur le recul qu'ils peuvent avoir sur ce qu'ils ont fait. Et sur ce fameux mouvement. Autant dans les livres sur le punk, les protagonistes aujourd'hui voient en quoi il y a un avant et un après. Mais là, on n'a pas cette impression. Ils ont juste grandi individuellement, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, mais de là à en faire un mouvement. En fait, moi j'aime quand les livres ils me parlent de quelque chose que je n'ai pas vécu et me donnent envie de le découvrir. Et là, ben c'est raté. J'attendais beaucoup de ce livre parce que j'aime vraiment beaucoup Guillaume Kosmiki, que je trouve en général passionnant. Et là, j'avoue que je suis super déçu, super frustré de n'avoir rien découvert et rien compris. Peut-être que le livre est arrivé trop tôt, que le recul n'est pas encore assez bon pour discerner et écrire l'histoire du mouvement. Enfin, tant pis, je le conseille quand même aux initiés qui sauront sûrement boucher les trous entre les deux interviews parce qu'ils connaissent en fait l'histoire qui sous-tend tout ça. J'ai fini sur Free Party, une histoire des histoires de Guillaume Kosmiki, j'en ai parlé un peu longuement. Donc on va faire une première pause musicale avec un morceau des Dirt Bombs, en fait, qui va me permettre de revenir à la base parce que c'est la reprise d'un des morceaux fondateurs de la techno, un morceau qui s'appelle Charivari, et c'est maintenant dans Qui ou Quoi. de retour sur Radio Dio 89.5 dans Qui ou Quoi, et je vais continuer à vous parler un petit peu bouquin. Normalement, j'ai jusqu'à 21h30, mais là, comme je suis arrivé un petit peu en retard, quand même 7 minutes en retard, je vais dépasser un petit peu. Bref, avant de lire Free Party, en préparant l'émission, je m'étais dit que j'allais coupler Free Party avec la BD Le Chant de la Machine, qui parle de l'histoire de la techno en BD. Mais vu qu'au final, Free Party ne parle qu'assez peu de musique, je trouve bien plus pertinent de vous parler de la communauté de Tancrel et Yann Benoît. La communauté, c'est un diptyque de BD qui raconte en fait l'histoire d'une communauté, mais pas n'importe laquelle, la communauté qu'a fondée et auquel a participé Yann Benoît, qui est en fait le beau-père du dessinateur Tancrel. La BD, en fait, donc, se présente comme une longue interview entre un gendre et son beau-père. Ils se baladent, ils marchent, ils s'assiedent, ils mangent, ils abordent à travers des flashbacks l'histoire de la communauté, des prémices de celle-ci jusqu'à sa fin, de mai 68 et de l'élan de liberté qui a permis la naissance de cette communauté, et jusqu'à la fin de cette communauté. Et c'est super intéressant. En général, on a une vision plus que caricaturale d'une communauté. Enfin, j'ai une vision plus que caricaturale d'une communauté dans les années 70. C'est pour moi un peu entre les drogués dans un village de l'Ariège et les bergers New Age qui garde ses moutons à poil dans le Larzac. Mais là, en fait, j'ai découvert que ce n'était pas que ça. Et c'est même pas du tout ça. Même si c'est un peu ça quand même, sur certains points. Et ben voilà. 40 ans avant la naissance de la techno et les premières free parties, ces personnes ont elles aussi décidé de vivre autrement que les deux pieds ancrés dans la société, sauf que eux, c'est en essayant de vivre tous ensemble dans un vieux moulin, et surtout d'essayer de concrétiser certaines des utopies de mai 68, et en particulier celle énoncée dans l'an 1 de GB. On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Dans cette communauté, loin du berger hippie donc, ils vont vraiment essayer de trouver une façon de fonctionner en commun, de vivre en commun et de vieillir en commun en s'éloignant de pas mal de choses du modèle existant et dominant à l'époque. Ils vont le faire surtout sans être agressifs ni extrêmement radical quant à l'image qu'ils renvoient à l'extérieur. Mais pour autant, ils ont vraiment essayé des choses. Je ne vais bien sûr pas tout vous raconter parce que sinon ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Et puis parce que en fait, vous passeriez vraiment à côté de quelque chose en ne le lisant pas finalement. Bien évidemment, au début de cette histoire, tout le monde est remonté à bloc, tout le monde est à fond. Et va s'ingénier à faire fonctionner cette espèce d'aventure un peu hors du commun. Il faut bien le dire. Et puis, bien évidemment, ça va finir. De toute façon, dès le début de la BD, ils en parlent au passé, donc on sait qu'il va se passer quelque chose et que l'expérience est terminée. Mais ça, en fait, c'est plutôt malin, parce que justement, ça fait partie de l'intérêt de cette BD. Parce qu'en fait, tout un chacun va s'y retrouver pour le lire. Je vais être un peu manichéen et diviser la population en deux, ceux qui sont pour ce genre d'expérience, les pro-communautés, et ceux qui sont contre. Et ben, au cours de leur lecture, ceux qui sont pour vont vouloir savoir ce qui s'est passé, pour améliorer de potentielles futures expériences similaires, alors que ceux qui sont contre, ils vont se réjouir et prendre du plaisir à ce qu'on leur décrit et ce qui va se transformer en ce qu'ils souhaitent depuis le début, à savoir que ce genre d'expérience ne mène à rien et que la communauté se finisse. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant et enthousiasmant dans cette BD, c'est bien ça. C'est que tout le monde y trouve son compte. Et en bon indécrottable utopiste pro-communauté que je suis sûr que même les anti-communautés qui pourraient le lire peuvent être touchés par certaines choses et qu'au final, il en ressortira un petit peu changé. Donc sur le fond, moi je trouve que cette BD est assez universelle. Mais vraiment ça c'est sur le fond, parce que sur la forme, au final, c'est quand même une BD qui ne m'enthousiasme pas plus que ça. La filiation avec Maos, la BD de Art Spiegelman, dans lequel un fils parle avec son père et de son expérience de la Shoah, est flagrante et, pour le coup, ne supporte pas vraiment la comparaison. Graphiquement, la BD elle est en noir et blanc, avec un dessin sous forte influence Johann Sfar au début, et franchement, ça la dessert un peu. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon. Et surtout, ce qui fait qu'on est un... En fait, ces deux éléments-là font qu'on est en fait dans une espèce de BD autobiographique au reportage, et ce genre de BD autobiographique reportage s'ingénie parfois à raconter tout et n'importe quoi. Et en fait, avec ce genre de BD autobio-reportage, moi à chaque fois, je me demande en quoi le fait que ce sujet soit traité. Attendez, je recommence. Je me demande en quoi le fait que ce sujet soit traité sous forme de bande dessinée se justifie. Parce que le langage BD permet des choses qu'un documentaire non illustré ne peut pas proposer. Et j'ai souvent l'impression que ce langage BD n'est pas bien exploité, que ce soit en termes de dessin, de découpage, de texte, etc. etc. Dans cette BD, même si moi, le dessin ne me parle pas plus que ça, et le procédé narratif non plus, on est quand même un peu sur le fil. Le propos est intéressant, le fond assez fort, et la façon de présenter... Elle est quand même un peu convaincante et pertinente, même si elle n'est pas bouleversante. Ce que moi, je recherche avant tout dans une BD. Ça fait qu'en fait, cette BD, même si je ne l'adore pas, je l'ai souvent conseillée. Et même, j'en profite pour en parler ici. Parce que c'est vrai que... Bon, déjà, j'en profite tout le temps pour en parler, parce qu'au final, je trouve que... Enfin, reportez-vous à ce que j'ai dit. Et surtout, je trouve que la mettre en lien avec le livre sur les free parties, tout ça, en fait, ça participe d'un même mouvement qui fait sens. Mais sauf que dans cette BD-là, par rapport au livre free party, on ressent quand même un souffle, une époque, on comprend pourquoi, on comprend les choses. Et en plus, ça donne à réfléchir. Et comme disait GB, c'est pas triste. C'était Moondog pour un deuxième interlude musical dans Qui ou Quoi ce soir sur Radio Duo. En fait, la demi-heure qui m'est impartie touche bientôt à sa fin. Enfin, elle est même dépassée d'ailleurs. Contrairement à mon habitude, j'aurais parlé que de deux livres, hein, vous en êtes rendu compte, mais c'est vrai que les free parties... Au final, il m'aura quand même pas mal interpellé vu que j'en ai parlé pendant plus de la moitié de l'émission. Peut-être que finalement, il faut y voir un bon argument pour le lire. Je ne sais pas, je vous laisse juger si vous voulez lire un livre de 700 pages sur ce sujet. Je vais quand même conclure donc assez rapidement. Je vais annoncer un événement assez important là, sur les deux prochains jours à Saint-Étienne. Il y a Avataria qui organise deux jours sur Philippe K. Dick, le fameux écrivain de science-fiction, dans le cadre du festival de l'écrit à l'écran, avec deux trucs, deux soirées, enfin deux journées carrément, qui sont autour de ce grand écrivain de science-fiction qu'est Philippe K. Dick. Bon, au début, je m'étais dit que j'allais peut-être en parler, mais en fait, les livres que j'ai lus de lui, ça fait un peu trop longtemps que je les ai lus. J'allais pas en parler alors que ça fait plus de 10 ans que je les ai lus. Mais en tout cas, ces journées me donnent quasiment envie d'en relire. Je vous rappelle donc que demain soir, au Méliès, il y a un documentaire sur les mondes de Philippe K. Dick, d'Ariel Kirou et Yann Coquard, avec un débat qui se souvient du présent Philippe K. Dick, avec justement Ariel Kirou, Arnaud Zohou, et puis une projection du film Scanner Darkly, qui est une adaptation de Substance Mort, à mon sens le meilleur livre de Philippe K. Dick. Ben, j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous dire si c'est bien. L'entrée est à prix libre, donc... courez-y si vous ne savez pas quoi faire demain. Samedi matin, à la bibliothèque de Carnot, il y a une présentation de l'œuvre de Philippe K. Dick et des lectures faites par des bibliothécaires, je crois. Et puis samedi, au Grand Luxe, une rencontre avec Hélène Collomb, qui est sa traductrice, la traductrice de Philippe K. Dick, je crois. Et puis une pièce sonore et des lectures, toujours autour de Philippe K. Dick à Saint-Étienne. Donc voilà, nous... En attendant, on se retrouve dans deux semaines sur Radio Duo. Je partirai un peu avant de chez moi, comme ça j'aurai pas à courir pour venir prendre le micro. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur Radio Duo.